Chapitre 4. Trois êtres humains, l'un en portant un quatrième sur sa hanche et un petit animal à fourrure, franchirent au pas de course le portillon et se précipitèrent vers Blaine le Mono. Celui-ci vrombissait dans son quai étroit, à demi au-dessus, à demi au-dessous, l'air d'une balle de revolver géante, une balle qu'on aurait peinte d'un rose incongru, couchée dans la culasse ouverte d'un fusil de gros calibre. Dans l'immensité du berceau, Roland et les autres avaient l'air de taches en mouvement. Au-dessus d'eux, des pigeons, qui n'avaient plus désormais que 40 secondes à vivre, voltaient en arabesque sous l'antique toit du berceau. Quand les voyageurs furent près du monorail, une partie incurvée de sa coque s'ouvrit, révélant une portière, et au-delà, une épaisse moquette bleu pastel.
« Bienvenue à bord de Blaine !»
dit une voix d'hôtesse de l'air tandis qu'il montait en trombe. Tous reconnurent cette voix. C'était une version légèrement plus audible et plus confiante de celle de Petit Blaine.
« Loué soit l'Empire ! Assurez-vous, s'il vous plaît, que vous avez votre titre de transport et rappelez-vous que voyager en infraction est un délit sanctionné par la loi. Nous espérons que vous apprécierez votre voyage. Bienvenue à bord de Blaine. Loué soit l'Empire. Assurez-vous, s'il vous plaît, que vous avez votre titre de transport. »
Soudain, la voix accéléra son débit pour se transformer en un charabia, puis en un gémissement haut-perché et bafouillant. Il y eut un bref juron électronique.
Blop.
Puis elle se coupa définitivement.
« Je pense que nous pouvons nous dispenser de ces vieilles conneries rasoirs, non ?» demanda Blaine.
De dehors parvint une explosion épouvantable et sourde. Eddie, qui portait Susanna, fut propulsé en avant et serait tombé si Roland ne l'avait retenu par le bras. Jusqu'alors, le garçon avait désespérément voulu croire que la menace de Blaine au sujet du gaz toxique n'était qu'une plaisanterie macabre.
« T'aurais dû t'en douter, pensa-t-il. On ne peut absolument pas faire confiance à quelqu'un qui s'amuse à imiter la voix des acteurs des vieux films. C'est une loi de la nature, à mon avis. »
Derrière eux, la partie incurvée de la coque se remit en place dans un léger chuintement. De l'air se mit à siffler doucement par des soupapes dissimulées, et Jake sentit ses oreilles se déboucher sans un coup.
« Ils viennent pressuriser le compartiment, non ?»
Eddie hocha la tête, regardant autour de lui avec des yeux en soucoupe.
« Je l'ai senti, moi aussi. Vise un peu cet endroit. Waouh !»
Il avait lu un jour quelque chose à propos d'une compagnie d'aviation, Regent Air, peut-être, qui avait traité des voyageurs désireux de se rendre à New York à Los Angeles avec plus de style que des compagnies telles que Delta ou United. Elle avait affrété un 727 fabriqué sur commande et pourvu d'un salon, d'un bar, d'une salle vidéo et de compartiments couchettes. Eddie songea que l'intérieur de cet avion-là devait avoir un peu le look de ce qu'il avait sous les yeux. Il se trouvait dans une longue pièce tubulaire, meublée de fauteuils pivotants rembourrés de peluches et de divans modulaires. À l'autre bout de ce compartiment qui devait bien mesurer plus de 20 mètres, il y avait une aire qui ressemblait moins à un bar qu'à un bistrot douillet. Un instrument de musique, peut-être un clavecin, était dressé sur un socle de bois poli, éclairé par un petit projecteur dissimulé. Eddie s'attendait presque à voir apparaître Hughie Carmichael qui leur égrainerait Stardust. Des lumières indirectes brillaient de panneaux placés haut sur les murs et un lustre accroché au plafond pendait à mi-hauteur du compartiment. Jake se dit que c'était en plus petit la réplique de celui qui gisait fracassé sur le sol de la salle de bal du manoir. Le fait ne le surprit pas. Il trouvait désormais naturel pareil doublon et association. Seule ombre au tableau, pas une seule fenêtre n'éclairait ce lieu somptueux. La pièce de résistance se dressait sur un piédestal sous le lustre, la sculpture en glace d'un pistolero avec un revolver dans la main gauche. La droite tenait la bride du cheval de glace qui, tête basse et fourbue, marchait derrière lui. Eddie remarqua que cette main-là n'avait que 3 doigts, les 2 derniers et le pouce. Jake, Eddie et Susanna, fascinés, contemplèrent le visage hagard sous le chapeau gelé, tandis que le plancher se mettait à vibrer doucement sous leurs pieds. La ressemblance avec Roland était frappante.
J'ai dû travailler assez vite, j'en ai peur, dit modestement Blaine. Qu'en pensez-vous ?
C'est tout à fait époustouflant, dit Susanna.
Merci, Susanna de New York.
Eddie, de la main, testait un des divans. Il était incroyablement moelleux. Le toucher lui donnait envie de dormir au moins 16 heures d'affilée. Les grands anciens savaient voyager avec panache. Y a pas à dire.
Blaine rit encore. La note stridente, un peu démente de ce rire, les fit se regarder les uns les autres avec malaise. « Ne vous faites pas de fausses idées. C'était le compartiment de la baronnie, ce que vous appelleriez, je crois, la première classe. »
Et les autres voitures, elles sont où ?
Blaine ignora la question. Sous leurs pieds, la vibration des moteurs s'accentuait. Susanna se souvint que les pilotes emballaient leurs moteurs avant d'attaquer la descente de la Guardia ou d'Idlewild.
Venez vous asseoir, mes intéressants nouveaux amis.
Jake se laissa tomber dans un fauteuil pivotant. Otte sauta promptement sur ses genoux. Roland prit le siège voisin, jetant un coup d'œil à la sculpture de glace. Le canon du revolver commençait à goûter lentement dans le bassin de porcelaine peu profond où se dressait l'œuvre d'art. Eddie prit place sur un des divans avec Susanna, aussi confortable que sa main le lui avait laissé deviner.
« Où allons-nous exactement, Blaine ?»
Blaine répondit du ton patient que l'on adopte quand on s'aperçoit qu'on s'adresse à un débile.
« Sur le sentier du rayon, du moins aussi loin que va ma voix. »
« Jusqu'à la tour sombre ?» demanda Roland.
Susanna se rendit compte que c'était la première fois que le pistolero s'adressait au fantôme loquace de la machine enfermée dans le ventre de Lude.
« Seulement jusqu'à Topeka, » murmura Jake.
« Oui, Topeka est le nom de mon terminus, bien que je sois surpris que vous le connaissiez. »
« Avec tout ce que tu sais sur notre monde, » songea Jake, « comment se fait-il que tu ignores qu'une certaine dame a écrit un livre sur toi, Blaine ? Est-ce à cause du changement de nom ? Un truc aussi simple a-t-il suffi pour que sa propre biographie échappe à une machine aussi complexe que toi ?
Et Beryl Evans, celle qui est censée avoir écrit Charlie le Chouchou ? Tu la connais, Blaine ? Où se trouve-t-elle à présent ?
Bonne question.
Jake, cependant, se dit que l'heure était peut-être mal choisie pour les poser. La vibration des moteurs s'accentuait de minute en minute. Un léger grondement, pas aussi violent que l'explosion qui avait secoué le berceau lors de leur montée dans le train, courut à travers le plancher. Une expression alarmée se peignit sur les traits de Susanna.
« Oh merde, Eddie, mon fauteuil, on l'a oublié !»
Eddie lui entoura les épaules de son bras.
« Trop tard, ma belle, » dit-il, tandis que Blaine le Mono s'ébranlait glissant vers son ouverture dans le berceau pour la première fois en 10 ans et la dernière de sa longue, très longue histoire.